Cette semaine, on est dans notre série Le divin en nous. Cette semaine, j'écris une lettre hebdomadaire. Ceux qui ne la reçoivent pas, vous pouvez juste laisser vos coordonnées à Ginette en arrière, puis je vais vous rajouter dans la liste. Pendant la pandémie, j'en ai envoyé une à tous les jours, pendant 2 ans de temps. Mais là, c'est une fois par semaine. Et cette semaine, j'envoyais dans une petite série que je fais, Le vrai bonheur, la parole qui dit « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on sera bon pour eux » ou quelque chose comme ça. Il y a une version qui dit « Car Dieu sera bon pour eux », mais la version originale dit « Parce qu'ils recevront de la bonté ». On sait que ça vient de Dieu, tout ce qui est bon, que ce soit par une personne ou non, ça vient de Dieu. Mais lorsque j'écrivais ma lettre, je me rendais compte que « Heureux ceux qui font preuve de bonté », c'est pas évident à tous les jours, n'est-ce pas? On ne réussit pas à tous les jours à être bon. À moins qu'il y ait quelques exceptions dans la salle, c'est bon d'être bon, mais ce n'est pas toujours facile. Et je me disais, on a tellement besoin de Dieu qu'il nous transforme pour devenir bon comme on voudrait être bon. Hein? Et encore plus comme Dieu voudrait qu'on devienne bon. Et savez-vous pourquoi Dieu veut qu'on soit bon? Ben, parce qu'il est bon. Ça, c'est écrit dans la Bible même. Parce qu'il nous aime. Puis il sait qu'on est bien dans notre peau quand on est bon. Puis quand on n'est pas bon, on n'est pas bien dans notre peau. Êtes-vous d'accord avec moi? Notre papa, il veut qu'on soit bien dans notre peau. Et il nous transforme peu à peu dans sa bonté, à son image. Et c'est pour ça que le thème de cette année, c'est créer à son image. On veut vraiment explorer tout ce qui concerne à être créé à l'image de Dieu. Et on est dans une série en ce moment qui est « Le divin en nous ». Quand j'ai commencé cette petite série-là, je vous ai apporté le fait que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il l'a créé à son image. Et pour ça, l'être humain a plein de caractéristiques de Dieu. Mais lorsque on est né de nouveau, lorsqu'on est venu à Jésus, lorsqu'on a vécu l'œuvre surnaturelle et miraculeuse de la nouvelle naissance, soudainement, quelque chose s'est transformé en nous. La première des choses, on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas créé à l'image de Dieu. On l'était, mais on s'est aperçu. En tout cas, moi, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses en dedans de moi qui n'étaient pas vraiment à l'image de Dieu, qui n'étaient pas beaux, puis qu'il fallait que ça change. Donc, l'Esprit Saint nous a convaincu que j'avais des choses à transformer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est mis à l'œuvre pour me transformer. Et le divin en nous, c'est ça. C'est Dieu qui est en nous et qui nous transforme. Mais la réalité de la vie, c'est que même lorsqu'on vient à Jésus puis qu'il commence cette œuvre de transformation intérieure, ce changement de logiciel, comme le message que je vous ai apporté, même lorsqu'il fait ça, ça ne marche pas tout le temps. Des fois, on se rend compte que ça ne va pas assez vite. Des fois, on se rend compte qu'on prend un break de cette transformation-là pour vivre d'autres choses que le monde a à nous offrir. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est pas heureux, on revient. Et l'œuvre de Dieu continue parce que Dieu, il ne nous lasse jamais, lui. Il est fidèle, il est bon et il nous aime. Amen. Donc, Dieu a pourvu, bien entendu, des façons pour nous transformer. Le divin en nous, ça ne se fait pas tout seul. OK? En fond, je contredis d'autres messages où j'ai déjà dit que ça se faisait tout seul. Parce que les deux sont vrais. Ça se fait tout seul dans le sens qu'il ne faut pas forcer. L'Esprit-Saint fait son œuvre. Mais ça ne se fait pas tout seul parce qu'il faut vouloir. Parce qu'il faut chercher Dieu. Parce qu'il faut aller vers Dieu pour pouvoir recevoir de son Esprit. Et ce matin, j'avais à cœur qu'on parle d'une des choses que Dieu a préparé de longue date, un sujet qui m'intéresse beaucoup et que Dieu a préparé de longue date pour pouvoir nous transformer à la stature parfaite de Jésus-Christ. Dans Éphésiens, Paul parle aux chrétiens puis il leur dit « Jusqu'à ce que vous, donc dit Dieu fait des affaires, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et la mesure de la stature parfaite de Christ. » Êtes-vous d'accord que Jésus est beau? Hein? Même les non-croyants sont d'accord que Jésus a été un personnage extraordinaire. Et la promesse que Dieu nous fait, c'est de nous transformer à la stature parfaite de Christ. Moi, j'ai hâte, en tout cas. Ça s'en vient. Amen. Donc, c'est son plan, c'est qu'on soit comme lui. Moi, c'est ce que je veux. Puis, je pense que c'est ce que vous voulez aussi. Le royaume des cieux est quand même incroyable quand on y pense. Je reviens à ce verset-là qui m'a inspiré cette semaine. « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car ils recevront de la bonté. » Donc, on est bon, on est satisfait dans notre âme, on est heureux. On fait du bien autour de nous autres. On reçoit de la bonté, on est bien heureux, puis on continue. Hein, ça, c'est le royaume des cieux. Hein? C'est ce qu'on va vivre pour l'éternité. Donc, Dieu a juste des bonnes choses pour nous autres. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile, il y a plein d'événements dans notre vie qui nous arrivent, plein de choses qui se passent en dedans et qui nous montrent qu'on a du chemin à faire. On a besoin d'une recette. Qui aime les recettes? Ça va bien avec des recettes, hein? Je viens de perdre mes notes, attendez un petit peu. Avez-vous une recette pour que je retrouve mes notes? OK, ils reviennent de revenir. Bon. Savez-vous ça que Dieu nous a donné plein de recettes, en fait? Ce matin, je vais vous parler d'une recette. Une recette que Dieu prépare depuis longtemps, depuis que son peuple Israël était sur la terre, donc depuis des centaines, des milliers d'années, Dieu prépare une recette pour nous autres. Et c'est intéressant parce qu'il a préparé cette recette-là longtemps d'avance, avant de vraiment la faire, la recette. Des centaines d'années avant de faire sa recette, il a préparé la recette. Pas pire? Il a préparé son peuple à une vérité. Et la vérité, c'est que si on mange Dieu, bien, le divin en nous grandit. Et il s'est servi d'une image qui est la manne. Et aujourd'hui, je vous parle de la manne. Et j'ai le goût de décortiquer avec vous la manne qui venait du ciel. Hein, la manne, c'est une nourriture, peut-être pour vous mettre dans le contexte, c'est une nourriture que Dieu faisait pleuvoir du ciel pour nourrir son peuple. Et il a fait ça pendant 40 ans. Il n'avait rien à manger, il était dans le désert. Et Dieu faisait pleuvoir du pain, qu'il appelait la manne, une sorte de pain qui goûtait le miel, il paraît, la coriandre un peu. Pour le vrai, la Bible dit ça. En tout cas, il paraît que c'était bon, mais c'était surtout très bon pour la santé, sûrement. Hein? Si c'est Dieu qui a fait la recette, ça devait être bon pour la santé. Ça devait avoir tous les meilleurs ingrédients, zéro cholestérol, peu de glucides, hein? Pas trop de sel, OK? Juste parfait pour maintenir les personnes en santé. Ça, c'est ce que Dieu a fait pleuvoir du ciel. Donc, c'est ça la manne. Et mon message aujourd'hui, c'est la manne en nous. Donc, pour tous ceux qui aiment manger, c'est une image que Dieu préparait qui était facile à comprendre. Quand on mange des aliments, tous les produits des aliments se décomposent dans notre estomac et se répandent partout dans notre corps et nous apportent des bénéfices. C'est quoi les bénéfices que les aliments nous apportent? Hmm? La quoi?
La santé.
La santé? L'énergie. Faut que vous parliez fort parce que je suis dur d'oreille. La vie, n'est-ce pas? Hein, sûrement la vie.
Du plaisir.
Du plaisir aussi, c'est vrai. Ça rassasie, hein, manger, surtout quand on a faim. Ça apporte une paix, un repos. Les siestes sont meilleures, hein, quand on a mangé. Sauf en vieillissant des fois. Hein, quand on vieillit, il faut manger moins le soir avant de se coucher. Mais ça apporte juste des bienfaits. Donc, le peuple qui a été nourri pendant 40 ans, il s'en souvient de cela. Dieu l'a nourri pendant 40 ans avec la manne. Fait que des siècles après, le peuple s'en souvenait encore. Un peu comme nous autres, les Québécois, on se souvient des bienfaits, mettons, de la sève de sapin que les Amérindiens nous ont enseigné parce qu'on avait le scorbut quand on est arrivé d'Europe Et finalement, on s'est aperçu que l'hiver, quand on mangeait de la sève de sapin, de la gomme de sapin, bien, on n'avait plus le scorbut. Hein? On avait besoin de vitamine C, ça ne s'appelait pas de même dans ce temps-là. On ne savait pas c'était quoi l'ingrédient, mais ça marchait. Hein? Puis on s'en souvient encore aujourd'hui, mes parents me contaient ça. Et le peuple, des années après, se souvenait qu'il avait déjà été nourri par quelque chose qu'il appelle la manne. Dans le psaume 78, 24, il chante. « Il a fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture. Il leur a donné le pain du ciel. » Dans le chapitre 6 de Jean, les disciples demandent à Jésus, qui était vu comme un prophète dans ce temps-là, okay? qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus répond, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. » Puis là, ils disent, « Ouais, c'était facile de croire en Moïse. Pendant 40 ans, par Moïse, Dieu a nourri son peuple. Mais toi, c'est quoi les signes? C'est quoi ce que tu peux faire de spécial pour qu'on croie en toi? » Et c'est là que Jésus répond. Hein? Eux, ils disent, « Quel signe miraculeux fais-tu? » Donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi, que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel. Okay? Jésus répond, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dira alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Et c'est là que la recette que Dieu prépare depuis des siècles commence à faire du sens. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dieu a nourri son peuple pendant 40 ans avec un pain physique qui venait du ciel. Okay? Le peuple de Dieu s'en souvient. Et on dit à Jésus, « Moïse, lui, a fait ça, toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on croie en toi? » Et il leur répond, « Bien, ce pain-là, là, qui fait que vous croyez en Moïse, bien, c'est moi, le vrai pain descendu du ciel. » On se met à leur place, pas facile à comprendre. Hein, c'est un changement de recette, mettons. Okay? Mais Jésus est en train de révéler que Dieu a fait ce signe-là dans le but de sa venue. Il les a nourris avec la manne dans le désert parce qu'il savait qu'un jour, il viendrait sur la terre et lui serait le pain de vie qui donne la vie aux êtres humains, la nouvelle vie. La vie éternelle, c'est lui. Amen. Dans Exode, chapitre 16, si on veut se mettre dans le contexte et un peu aller chercher des leçons de ce man-là, c'est ça que j'avais à cœur de faire aujourd'hui. Ça dit, toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim. Donc, ils venaient de sortir d'Égypte, ça faisait pas tellement longtemps. Ils avaient été dans un oasis. Et là, ils étaient partis de là. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le mont Sinaï. Le 15e jour du deuxième mois après leur sortie d'Égypte, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Donc, après avoir traversé la mer Rouge, après avoir vu tout ce qui s'était passé, le peuple de Dieu commence à avoir faim. Puis on est d'accord que quand on a faim, on n'est pas pareil. Avez-vous déjà remarqué ça? Les belles vertus qui sont en nous, quand on a faim, des fois, ils tombent. Okay. Donc, ils n'étaient pas différents de nous autres. Donc, ils se plaignent. Il murmure. On va mourir de faim, ça n'a pas d'allure. OK? On peut entendre un petit peu comme une personne qui ne connaît pas Dieu, qui croit que Dieu existe, mais qui ne le connaît pas personnellement. Des choses qu'on entend souvent aujourd'hui, si Dieu existait, hein, ça n'arriverait pas. Si Dieu était vraiment bon, si Dieu était Dieu, si j'étais Dieu, moi, je ne ferais pas ça de même. Hein, c'est des choses qu'on entend souvent. Donc, il avait vu des interventions divines, OK? Ils avaient vu Dieu les sauver des Égyptiens, mais il avait faim. Ça dit, l'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. » Dieu avait décidé de nourrir son peuple. Okay? Mais c'est intéressant quand on sait, c'est en prévision de pouvoir un jour nous nourrir puis qu'on puisse comprendre et se servir de cette leçon de la manne. Chacune des personnes qui a ouvert son cœur à Jésus a accès à cette manne qui remplit et qui rassasie spirituellement. Hein? Donc, Dieu répond à un besoin primaire. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira, en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. » Donc, le premier principe qu'on pourrait apprendre de ce pain descendu du ciel pour nous, qui est Jésus, c'est que Dieu nous demande d'en ramasser à chaque jour. Et ça, je pense, c'est un des principes les plus importants que je voudrais nous apporter aujourd'hui. C'est qu'on ne peut pas s'asseoir sur ce qu'on a ramassé hier. Dieu veut qu'on ramasse du pain à chaque jour. Le pain est là. Il est disponible. Dieu l'a fait descendre du ciel. Mais Dieu veut qu'on aille le ramasser. Il veut qu'on aille le chercher par tous les moyens qu'il nous a donnés. Je vais faire un résumé, mais vous les connaissez. La plupart d'entre vous, tous ces moyens-là, des moyens qui sont évidents, mais qu'on n'a pas tout le temps de faire, hein, que ce soit la prière, la louange, venir à l'assemblée, la parole de Dieu, des fois le jeûne quand c'est nécessaire, peu importe, c'est de chercher Dieu. Okay? Dieu veut qu'on le fasse régulièrement. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on n'est plus en santé. Sinon, on devient malade. On devient dysfonctionnel. Donc, le premier principe, c'est le pain quotidien. On veut être vivant, on veut être en forme, plein d'énergie. On ne veut pas être confus. Hein? On s'entend que quand on manque de nourriture, des fois, on vient mélanger. On ne pense pas pareil. On veut être alerte, on veut être vigilant. On veut être intelligent. Hein? La nourriture, ça entretient notre cerveau. On veut être rempli de sagesse, on veut être victorieux. On veut faire les bons choix. À chaque jour, bien, il faut se nourrir à chaque jour de notre vie. Okay? Il n'y a pas d'autre moyen. Ça ne marche pas autrement. C'est un principe que Dieu a établi depuis longtemps. On a besoin de cette manne à tous les jours. On veut être rassasié. On veut être en paix. Le pain quotidien est essentiel. Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Hein, ça fait partie de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. C'est sûr que des fois, on a interprété différemment, certaines dénominations chrétiennes ont interprété différemment ce pain quotidien-là, en pensant souvent à la communion. J'ai fait exprès aujourd'hui, j'ai dit, je n'amènerai pas la communion, parce qu'on va aller chercher quelque chose de plus loin que le pain qu'on mange et que le vin comprend. Fait que j'ai dit, on ne prépare pas de communion aujourd'hui. On va aller chercher d'autres choses. Le pain et le vin, ça représente, faites ceci en mémoire de moi, ça représente Jésus qui a donné son corps pour nous et qui nous a permis d'avoir le pain du ciel, comme on va voir tantôt. Okay? Mais ce n'est pas le pain de vie. Okay? Puis il y a certaines dénominations qui disent qu'il faut prendre l'hostie régulièrement pour pouvoir avoir toujours ce pain en dedans de nous. Okay? Et c'est basé sur certains passage, mais ce que Jésus voulait dire ici, c'est qu'il faut aller le chercher, lui, son esprit. C'est ce pain-là qu'on a besoin de se nourrir régulièrement. Je vais essayer de l'autre bord parce que pour le vrai, je perds mes notes et je ne sais pas pourquoi. Bon. Peut-être de même, ça va marcher. Même pas. Bon. OK. Je vais y aller de mémoire. C'est correct avec vous autres? Amen. Ce qui suit, c'est un passage-là qu'on vient juste de lire, après que Dieu leur a dit, vous irez en chercher à tous les jours. Intéressant. Il dit dans Exode 16:4, « Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Intéressant ici, Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, Dieu l'a emmené dans le désert, le peuple a eu faim, OK? Et là, il ne voulait plus rien écouter, il avait juste faim. Dieu dit, « Je vais vous rassasier, je vais vous donner ce que votre bédaine a besoin. » Et là, je vais voir si vous allez vraiment obéir à mes commandements. C'est intéressant que ça vient tout de suite après le fait qu'il dit, « Je vais vous donner mon pain du ciel. Okay? » Donc, je te rassasie, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Maintenant, on va voir ce que tu vas faire avec ce que je vais t'enseigner. On va voir si tu es vraiment de mon bord, si tu veux vraiment nous suivre. Tu sais, Dieu nous offre sa manne et une des grandes distractions de la vie, de notre vie, de notre marche avec Dieu, c'est souvent ce qu'on a pu, ce qu'on a renoncé, ce qu'on aimait avant, mais qui n'est plus là. Hein? Puis le peuple d'Israël n'était pas différent de tout ça. Dans le livre des Nombres, ça dit... Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. » Il se souvenait de tout ce qui avait été bon en Égypte. Mais il avait oublié qu'il était esclave, qu'il faisait des travaux forcés, qu'il n'avait pas le droit de décider, que des fois, il y avait de l'abus sur eux autres, okay? Qu'il était un peuple dominé par Pharaon et son équipe. Ça, il ne s'en souvenait plus. Il se souvenait juste des bonnes choses qu'il mangeait. Et on est pareil. On vient à Christ... parce que ça va mal la plupart du temps. Bon, je sais que quelques-uns, c'est pas ça, mais je vous dirais que la grosse majorité, comme moi, c'est parce que ça va mal qu'on cherche Dieu. On trouve Dieu, on est délivré, c'est comme « wow ». Puis après ça, ça va mieux. Alors, on commence à penser à ce qu'on a renoncé, aux choses, aux voies qui ne sont pas de Dieu et qui finalement, on aimait ça, on trouvait ça bon, OK? C'était pas si pire. Hein? Là, on commence à justifier, à se dire, ben, finalement, peut-être que la Bible ne veut pas vraiment dire ça tout à fait. Des fois, si on ne réussit pas ça, on se dit, ben, Dieu est bon, Dieu pardonne. Petit écart de temps en temps, c'est pas grave. Hein? On n'est pas différent des Israélites de ce temps-là. Hein? On est distrait par notre vie antérieure, parce que le monde nous offre et qui n'est pas de Dieu. Et la manne, des fois, devient moins alléchante. Pourquoi? Parce que nos pensées sont occupées par les choses du monde qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas bonnes pour nous, mais qu'on aimait. Hein? Moïse, il revient là-dessus après les 40 ans dans le désert. Il revient sur ce principe-là. Il dit, « Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Il répète ici, « Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Déjà, l'Évangile apparaît ici, des centaines d'années avant que Jésus vienne. Dieu est déjà en train de dire, ce que vous avez vécu pendant 40 ans, c'est un présage de ce qui s'en vient. Vous avez besoin de la parole de Dieu pour vivre. Vous ne pouvez pas vivre juste de nourriture physique. Vous ne pouvez pas vivre juste d'une manne physique, mais vous avez besoin de la parole de Dieu. Et déjà, Dieu préparait son peuple. Et dans les années qui ont suivi, dans les siècles qui ont suivi jusqu'à Jésus-Christ, préparait son peuple à se rendre compte qu'il y a un besoin primaire que l'être humain a besoin. Et c'est la parole de Dieu. C'est cette manne qu'on doit aller chercher à tous les jours. Amen. On vit beaucoup d'épreuves, mais malgré ces épreuves-là, Dieu continue de nous donner la manne. Dieu est fidèle. Le pain du ciel, son esprit, sa paix par Jésus-Christ. Dieu nous regarde aller. Est-ce que mon fils et ma fille vont continuer de me suivre juste avec la manne que je lui donne? Ou est-ce qu'il va se couper de la manne en se souvenant d'autres choses qu'il aimait avant, qu'il n'a plus maintenant, mais qu'il voudrait vivre encore? Dans l'Apocalypse, Dieu parle à une église. Il leur dit, vous êtes une église de foi. Vous faites les choses correctes. C'est dans Apocalypse 2. Ouais. Il dit, vous faites ce qui est correct. Vous êtes une église de foi, vous vous réunissez, vous étudiez ma parole, mais j'ai quelque chose contre vous. Vous avez laissé rentrer le péché dans votre église. Vous avez laissé rentrer les viandes sacrifiées aux idoles. Les idoles du monde, vous vous y êtes attachés à nouveau. Que ce soit l'argent, que ce soit peu importe. Tout ce qu'on vous offre, tout ce que le monde vous offre. L'immoralité sexuelle, vous l'avez laissé rentrer. Ça, j'ai ça contre vous. Et il finit en disant, au vainqueur, celui qui persiste avec ma manne et qui ne cherche pas la manne, la fausse manne que le monde lui offre, au vainqueur, je donnerai à manger la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Autrement dit, au vainqueur, celui qui se contente de ma manne, je vais lui donner une identité unique, un nom unique, parce que vous êtes tous uniques pour moi. Mais il dit aussi, je vais vous donner de la manne cachée. Et c'est intéressant ici, parce que tous ceux qu'on marche avec Jésus depuis un bout de temps, on se rend compte que, contrairement à la manne que le peuple de Dieu a mangé dans le désert, qui goûtait toujours la même chose, même s'il y avait tous les ingrédients pour rester en santé, la manne que Dieu nous donne, okay, c'est comme si on découvrirait les milliers d'ingrédients de la manne qu'il donnait à son peuple. Au lieu de juste goûter le gâteau, on vient qu'on goûte chacun des ingrédients, tous aussi glorieux les uns que les autres. Et Dieu nous révèle des choses nouvelles constamment. Il nous révèle son royaume constamment, des choses sur nous, des choses sur l'être humain, des choses sur lui, des choses sur sa création, des choses sur son plan. Et on va de gloire en gloire, on est émerveillé, de merveille en merveille, en goûtant cette manne, en allant la chercher parce qu'elle nous est disponible, en allant la chercher à tous les jours. Donc, c'est beaucoup moins monotone que la manne dans le désert qui goûtait tout le temps la même affaire, la manne que Dieu nous donne. Mais à cause de notre nature humaine, de notre nature pécheresse, on a toujours tendance à vouloir chercher des choses qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà eues, qui nous manquent, que le monde a l'air à être heureux, sans Dieu, à vivre. On veut aller rechercher ça. Dieu nous invite à sa manne, parce qu'il sait qu'il n'y a rien de meilleur que sa manne pour nous rendre heureux. Je ne dis pas que pour nous donner des plaisirs. Il y a des plaisirs de ce monde qui sont bons, mais ça ne nous rend pas heureux. Amen. On oublie, lorsqu'on consomme la manne, ce que les Israélites oubliaient lorsqu'ils étaient tannés de manger le manne. Il y a un événement spécial où, à un moment donné, Dieu leur a dit, « OK, vous en voulez? Les choses que vous aviez en Égypte, bien, je vais vous donner de la viande. Je vais vous en faire manger pas une journée, pas deux jours, pas une semaine, un mois de temps. Vous allez être tellement écœurés, là, elle va vous sortir par les narines. » C'est dit carrément de même dans la Bible. Ça nous arrive-tu d'être tellement écœurés qu'on dit, « Ah, Dieu, je reviens à toi. » Quand on fait des mauvais choix. Hein? Il y en a qui appellent ça le fond du baril. Okay? Peu importe comment on l'appelle, on n'est pas obligé que ça nous sort par les narines et qu'on soit écœuré avant de revenir à Dieu. On peut se nourrir de sa manne à tous les jours. Ce que les Israélites, en mangeant leur manne, avaient oublié, c'est qu'ils ne mangeraient pas juste la manne toute leur vie. Dieu leur avait promis quelque chose. Il leur avait promis une terre où ils arriveraient là et sur cette terre coule le lait et le miel. Et lorsque les espions sont allés visiter cette terre, il y avait des fruits, il y avait des céréales, il y avait toutes sortes de bonnes choses, il y avait des légumes, toutes des choses bonnes pour la santé, bonnes au goût. Il avait oublié que c'est vers ça qu'il s'en allait. Et souvent, on oublie que c'est vers ça qu'on s'en va aussi. Vous savez, la manne que Jésus nous donne en ce moment, c'est un petit aperçu de ce qu'on va voir lorsqu'on va arriver de l'autre bord, au royaume des cieux, à la Nouvelle Jérusalem. On n'a pas idée. Ça va être... On a un avant-goût, c'est déjà bon. D'accord? Fait qu'imaginez-vous ce qui nous attend. C'est la même chose que les Israélites ont vécu. Ils ont mangé, ils ont vu la gloire de Dieu dans le désert, mais quand ils sont arrivés dans la terre promise, Dieu leur a donné des victoires sur tous les peuples. Il les a nourris avec les meilleurs mets du pays. Il en a pris soin. Il les a établis. C'était juste du bon qu'il y avait dans la terre promise. Mais quand ils mangeaient la manne et qu'ils pensaient en arrière à ce qu'ils mangeaient en Égypte, bien là, ils étaient malheureux. Dieu nous invite à avoir les yeux fixés sur ce qui s'en vient. Notre cœur, là. Et en attendant, bien, la manne qu'il nous donne, elle ne goûte pas toujours la même chose. Dans Josué, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, ça dit, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Au moment où ils mangèrent du blé du pays, les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Prise de Jéricho, c'était le titre du prochain chapitre. C'était pas supposé d'être sa slide. Amen. Là où coule le sirop d'érable et le lait. Amen. Pour revenir à notre sujet du divin en nous, de la recette de la manne, OK? On doit donc aller en chercher chaque jour. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Un peu difficile de faire un parallèle ici. La parole de Dieu, si on la garde jusqu'au matin, il va se mettre des vers, puis elle va devenir infecte. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Mais ça se passe quand même d'une autre façon. Qu'est-ce qui se passe si on ne se nourrit pas constamment de chercher la manne descendue du ciel qui est en Jésus-Christ? Bien, c'est nous qui devenons amers, insatisfaits, chialeux, religieux, parfois légalistes, pleins de jugements, hein? Dysfonctionnels, je vous dirais. On devient dysfonctionnel. Pardon? Puis on finit aussi par s'éloigner. Mais ça ne paraît pas toujours à l'extérieur, parce qu'on demeure religieux avec les vraies paroles, mais en dedans, ça sent moins bon. C'est la même chose qui se passe si on ne se nourrit pas régulièrement, si on ne veut pas chercher cette manne régulièrement, la manne qui vient du ciel. Un autre principe, c'est le septième jour, pour nous qui est dimanche. Dieu leur a dit, le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée à chaque jour. Et ça dit, celui-ci leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, mettez-le en réserve jusqu'au matin. Mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Et ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint pas infect, et il ne s'y mit pas de verre. Intéressant, ce passage-là. Dieu avait demandé à son peuple, le septième jour, allez pas ramasser. Parce que la manne que je vous prépare pour le septième jour, pour la journée du Seigneur, c'est une manne spéciale. Vous allez la ramasser la veille, puis celle-là, elle ne deviendra pas infecte. Les vers ne s'y mettront pas. Vous savez, la journée du Seigneur, la convocation que Dieu fait depuis Moïse, hebdomadaire, c'est plus que juste une assemblée religieuse. C'est plus qu'une routine. C'est plus qu'une tradition. C'est surnaturel. C'est une manne surnaturelle que Dieu prépare pour nous cette journée-là. Et Dieu nous dit, préparez, pendant les six jours de la semaine, allez chercher de la manne, priez, cherchez-moi, ouvrez votre parole. Hein? Mais il dit, le septième jour, allez juste recevoir. Ouvrez vos cœurs, ça va vous tomber dessus, parce que moi, j'ai préparé une manne spéciale pour vous autres, le dimanche. Il ne faut pas se priver. Il ne faut pas se priver de cette manne-là. Moi, c'est sacré pour moi, cette journée-là. Je ne laisse rien passer qui va m'empêcher d'aller à l'Assemblée le dimanche. Quand je suis en vacances, je vais dans une autre Assemblée. Mais pour moi, c'est sacré, cette convocation-là. Pourquoi? Pas parce que je suis religieux, pas parce que je veux suivre la tradition, pas parce que ma conscience va être affectée. Rien de ça. C'est la manne que je reçois, cette manne surnaturelle. Là où les frères sont rassemblés, comme le psaume 133 dit, c'est là que j'envoie ma bénédiction. C'est une manne qu'il ne faut pas se passer, frères et sœurs. Et faisons-en une priorité dans notre vie. Dieu a préparé pour chacun de nous une manne, tous les dimanches. Et venons la recevoir. Amen. Il y a un endroit, par contre, où la manne ne pourrit jamais. Saviez-vous ça? Saviez-vous c'est où? On va lire un passage. Dans Hébreux 9, 3, 4. Hébreux explique beaucoup l'Ancien Testament. Et ici, Hébreux est en train d'expliquer le temple, le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint se trouve la présence de Dieu. C'est en arrière du second voile, ce voile qui a été déchiré lorsque Jésus est mort sur la croix pour exposer la présence de Dieu sur toute chair. Ça dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Dans ce coffre-là, il y avait une richesse incroyable. Il y avait les tables de l'Alliance, c'est-à-dire la loi de Dieu, c'est-à-dire les principes de Dieu, les valeurs de Dieu étaient là. Il y avait le bâton d'Aaron, qui était un bâton sec qui était poussé une fleur après, surnaturellement. Donc, la vie de Dieu qui vient sur les eaux sèches que nous étions avant de le connaître. Et troisièmement, il y avait cette manne qui a été gardée pendant des siècles sans qu'elle pourrisse, sans que les vers s'y mettent, sans qu'elle devienne infecte. Dans la présence de Dieu, la manne d'hier est encore bonne. Et même, elle a toujours une saveur nouvelle et meilleure. Et Dieu nous invite dans le lieu saint, le lieu très saint, régulièrement, à aller se rappeler la manne qu'on a ramassée dans le passé pour la rendre encore avec une plus grande valeur, avec une plus grande profondeur dans chacune de nos vies. On revient à Jésus. Il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. » La manne du désert a fait que les gens ont pu vivre pendant 40 ans, okay, nourris du ciel, mais ils sont morts. Jésus dit, « Moi, la manne que je suis pour vous, ça fait que vous ne mourrez jamais. » Avouez qu'on est béni d'être né après Jésus-Christ. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » C'est sûr que ça l'a scandalisé bien des gens qui l'écoutaient dans ce temps-là. Hein? Parce qu'ils disaient, « Mon corps est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Wow, 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 on n'est pas des cannibales. » Mettez-vous à la place des gens qui l'écoutaient. Encore là, Jésus transmettait la recette, le message préparé depuis des siècles de la manne. Hein? Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Dans un autre passage, ça dit, « Il est bon que je meure, car je vous enverrai mon esprit. » Donc, quand Jésus parle que la manne, c'est mon corps que je vais donner, bien, il parlait de ce qu'il avait besoin de faire pour nous ouvrir le ciel à l'Esprit de Dieu. Parce que la manne, c'est son esprit. Hein? Ce n'est pas Jésus homme, la manne. Jésus homme, fallait qu'il meure pour qu'il nous envoie son esprit. Donc, cette manne, venue du ciel, descendue du ciel, c'est l'esprit qui nous est maintenant disponible à cause de Jésus qui est mort sur la croix pour nous, qui a payé pour nos péchés et qui permet au Saint-Esprit de venir vivre en nous, même dans notre imperfection, parce que Jésus nous revêt d'un vêtement blanc. Jésus nous purifie de nos péchés par son action sur la croix. Donc, cette manne, c'est l'Esprit. Et c'est ce que Jésus dit un petit peu plus loin. C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Cette manne annoncée depuis des siècles au peuple de Dieu, Dieu pensait à vous autres lorsqu'il préparait ça. Parce qu'il savait que vous, vous auriez accès à la vraie manne qui donne la vie éternelle et qui fait que cette manne, par cette manne, on ne mourra jamais. On a besoin d'aller chercher la manne régulièrement pour pouvoir vivre en santé spirituellement et être les bienheureux et avoir la vie abondante que Dieu veut qu'on ait. Amen. Elle est disponible. Jésus a ouvert le ciel. Elle tombe du ciel, elle est là. C'est à nous d'aller la chercher. Vous savez, la Bible, ce n'est pas le pain du ciel, mais c'est le chaudron qui la contient. Ça, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est inspiré de la Bible. C'est un gros chaudron. La prière, ce n'est pas le pain du ciel, c'est la fourchette pour en manger. La louange, ce n'est pas le pain du ciel, c'est l'assiette dans laquelle ce pain nous est servi. Les petits groupes, ce n'est pas le pain du ciel, c'est le cuisinier qui le prépare. L'assemblée du dimanche, ce n'est pas le pain du ciel, c'est la réserve de pain qui est déversée sur ceux qui y viennent. Nos temps d'arrêt quotidien devant Dieu en lisant la parole en lui, parlant, en l'écoutant, ce n'est pas le pain du ciel, c'est la démarche pour aller chercher quotidiennement la manne qu'on a besoin pour avoir le divin en nous. Notre obéissance à sa parole. On a beau faire tout le reste, si on n'a pas l'obéissance à ses principes, à sa parole, on est coupé de la manne. Dieu vous a donné la manne pour vous mettre à l'épreuve et savoir si vous suivriez ses commandements. On néglige trop cela. On met la grâce gros comme ça, puis on se dit on peut se permettre n'importe quoi. On ne perd pas notre salut quand on s'écarte, mais on est coupé de cette manne. Donc l'obéissance est importante. Ça fait partie d'aller chercher la manne de Dieu. Donc l'obéissance à sa parole et ses principes, ce n'est pas le pain du ciel, mais c'est ce qui ouvre tout grand le garde-manger, le réfrigérateur et le congélateur du ciel. Je vais inviter les musiciens, on va faire un dernier chant. Et je finis avec ce texte-là de Jean 6. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Voici comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Savez-vous c'est quoi le miracle que Jésus a fait juste avant de dire ça à ses disciples? C'est le miracle où il multiplie le pain et les poissons. Dieu s'est donné l'autorité de parler de cette façon-là parce qu'il a créé une manne pour à peu près 10 000 personnes en les nourrissant de façon surnaturelle avec du pain et des poissons. Ensuite, ces gens-là sont venus le retrouver et c'est là qu'il a dit, « Je suis ce pain-là. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Amen.